Mon invité, il est PDG de Funartec, une entreprise québécoise qui rayonne un peu partout sur la planète, mais qui est encore mal connue ici au pays. On peut dire que cette entreprise-là, elle est dans l'optimisation de l'intelligence artificielle pour construire des solutions industrielles pour ses clients, mais des solutions personnalisées. Et comme c'est du fait sur mesure, quelquefois, ben, ils arrivent même jusqu'à optimiser les performances des algorithmes jusqu'à 30 % de leur capacité. Alors, pour en savoir plus sur eux, sur leur façon de faire, j'accueille le PDG de Funartec. Bonjour, Nicolas Ivanhomme.
Bonjour, Bruno.
Avant d'aller plus loin, question de vous positionner un peu. Qu'est-ce que, je le disais tout à l'heure, qu'est-ce que c'est Funartec?
Alors, Funartec, c'est une start-up en IA, en intelligence artificielle. On est basé à Montréal, on existe depuis 2017. On est un petit groupe, on est 5, on a 4 professeurs et on fait essentiellement du travail de pionnier. On fait de l'hybridation entre de la recherche opérationnelle et du machine learning. On résout des problèmes industriels et on fait de la recherche académique.
Si je dis que vous faites de la gymnastique avec l'intelligence artificielle pour servir vos clients, est-ce que je me trompe?
On trouve surtout des solutions. Je ne sais pas si ça correspond à faire de la gymnastique. On se creuse les ménages, effectivement, mais essentiellement, on trouve des solutions.
Mais vous êtes dans le domaine, c'est assez pointu, là. Si je ne me trompe pas, vous êtes dans le domaine des solutions industrielles de 4.0, 5.0. Là.
5.0.
Ouais.
5.0 depuis le début.
Bon, ben dites-moi, c'est quoi la différence entre le 4.0 et le 5.0 quand on est dans l'industriel?
Alors, le 4.0, je dirais, il est quand même relativement connu, mais le 5.0, il y a une différence. Notamment, il y a deux choses qui sortent vraiment de l'ordinaire par rapport à 4.0. La première, c'est qu'on veut pouvoir confectionner des services ou des produits qui sont customisés, qui sont adaptés. Par exemple, en tant que vendeur de chaussures, j'aimerais pouvoir vendre une chaussure unique à chacun de mes clients.
Okay.
En 4.0, on essaie de faire des chaussures en masse, mais c'est toujours la même chaussure. 5.0, on arrive à personnaliser les chaussures une à une. Ça, c'est une première chose. Le deuxième volet important de l'industrie 5.0, c'est qu'on va regarder la compagnie dans un ensemble plus grand que juste la compagnie et la production. Donc, on va regarder de manière holistique tout ce qui se passe, notamment au niveau de la pollution. On va voir que la compagnie est un élément dans un ancrage plus vaste, notamment, encore une fois, au niveau de la pollution, c'est ce qui nous intéresse.
Donc, dans votre démarche, dans vos services, il y a tout le volet éthique qui est important.
Oui, effectivement, c'était extrêmement important pour nous.
Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples de types de clients, sans les nommer, là, mais dans le domaine, des clients qui font appel à vos services?
Mais il y en a un que je peux nommer, puisque c'est public. Donc, on a travaillé avec le groupe Essin Toyota. On a fait 2 projets avec eux. Et puis, on a aussi eu comme client, par exemple, le port de Montréal. Et puis, effectivement, il y a des clients qu'on ne peut pas nommer.
Ouais.
Mais on a des gros, des moyens et des petits clients.
Mais dans le cas, par exemple, de Toyota, votre intervention, elle servait à quoi?
Alors, essentiellement, on les a rencontrés parce qu'on a gagné un concours. Donc, ils avaient un problème de logistique assez complexe pour livrer des pièces de voiture. Ils ont essayé pendant 2 ans de résoudre ce problème-là et n'ont pas réussi. Finalement, ils ont fait un concours. Il y avait plus de 800 compagnies qui ont participé. Et on a gagné le concours et c'est comme ça qu'on les a rencontrés. Et puis, on a commencé à travailler avec eux. Et finalement, on a eu de la chance puisqu'on a réussi en quelques mois à leur trouver une très chouette solution.
Ouais, quand même. L'autre question qui me passait par la tête quand je vous ai découvert sur mon LinkedIn, ça fait un bon nombre d'années là, que vous travaillez avec l'IA. C'est votre argile, c'est votre outil. Est-ce que vous avez remarqué une plus forte demande depuis 1 an et demi environ, là, depuis qu'il y a eu l'arrivée de ChatGPT et qu'on s'est mis à parler de l'IA?
Alors moi, je répondrai en 2 temps parce qu'il y a un engouement général pour l'IA. Effectivement, depuis ChatGPT, on en parle de plus en plus. Mais je dirais qu'il y a aussi un engouement pour notre façon de faire de l'IA, qui est l'IA hybride. De mois en mois, on voit une ouverture de plus en plus grande du marché pour un autre type d'IA.
Ben, qu'est-ce que c'est votre IA hybride?
Alors, l'IA hybride, en fait, l'IA, c'est vaste. On parle souvent du machine learning, mais il y a d'autres domaines, notamment la recherche opérationnelle. Et nous, ce qu'on fait, et on n'est pas les seuls, c'est que on combine tous ces domaines ensemble. On pense que si on les combine, en fait, on prétend même que si on les combine, on obtient des résultats qui sont meilleurs. C'est-à-dire qu'on prend du ML, par exemple, qui est indispensable, qui est génial, mais il y a des avantages et des inconvénients. On le combine avec un autre domaine comme la recherche opérationnelle, qui, elle aussi, a des avantages et des inconvénients. Puis le but du jeu, c'est de les combiner de telle sorte que les avantages se démultiplient et que les inconvénients sont palliés par les avantages de l'autre.
Qu'est-ce que l'un amène et qu'est-ce que l'autre amène?
Et par exemple, le ML amène la compréhension des données, ce que les données peuvent apporter au niveau statistique, ce qui est extrêmement important. La recherche opérationnelle, par contre, peut amener le savoir, le savoir-faire. Donc, on arrive à combiner le savoir, savoir-faire avec les données. Et ce savoir, on l'a déjà. Donc, pas besoin d'aller le rechercher dans les données, puisqu'on le connaît. On combine les deux, ça permet d'aller plus loin.
Mais dans votre démarche, oui. L'honneur de la guerre, c'est d'avoir une trousse de données, c'est d'avoir un domaine qui génère des données pour arriver à trouver une solution, le type de solution que vous avancez?
Alors nous, on essaie de trouver des solutions d'après le contexte réel. Si on a beaucoup de données, tant mieux. Mais si on n'a pas, c'est pas grave. On va faire de l'IA sans données. Ça se fait. En général, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas beaucoup de données ou que les données sont de mauvaise qualité. Alors, en ML, on a l'adage « garbage in, garbage out », ce qui est vrai en ML. Mais justement, c'est une des raisons pour lesquelles on fait de l'IA hybride. Parce qu'avec le savoir qu'on peut modéliser, par exemple, par la recherche opérationnelle, on peut se passer peut-être dans un premier temps des données, parce qu'on a le savoir. Donc, on s'adapte vraiment au cas par cas dans la réalité. Parce que c'est rare d'avoir des données et beaucoup de données.
La semaine dernière, j'avais publié un billet sur le blog de mon carnet qui était intitulé là, de mémoire l'IA et la crise écologique ou quelque chose comme ça. Et vous avez commenté, puis ça a vraiment attiré mon attention, vous avez dit, il serait temps qu'on réalise qu'il y a différentes façons de faire de l'IA. Il existe aussi une façon de faire plus efficace et nettement moins gourmande en ressources. Ben là, avec ça, vous avez attiré mon attention. Qu'est-ce que vous aviez en tête quand vous avez écrit ça?
Ben, tous les projets que l'on fait nous suggère que c'est effectivement possible. On obtient des résultats plus probants, que ce soit par la robustesse, que ce soit par l'efficacité, que ce soit ou d'autres raisons, l'explicabilité par exemple. Et en parallèle, on arrive à avoir moins besoin de données et moins de ressources énergétiques. Par exemple, le premier projet qu'on a fait avec Essin Toyota, il s'attendait à ce qu'on ait une solution déployée sur plein de serveurs sur le cloud. Finalement, on est arrivé avec une solution qui prend 4 minutes sur un laptop.
Bon, ça se compare bien, ça. Mais c'est le fait qu'il y ait moins de données à calculer?
C'est surtout le fait qu'au-delà des données, quand on combine le machine learning et la recherche opérationnelle, on est capable, avec la recherche opérationnelle, d'aller intelligemment fouiller l'espace de solutions. Le machine learning, c'est une façon assez brute de faire, qui a son efficacité, qui a son intérêt. Mais quand on est capable d'en savoir un peu plus, parce qu'on n'est pas obligé de se baser uniquement sur les données, mais on a un savoir, on est capable d'aller trifouiller les données, mais de manière intelligente. Ça permet d'aller droit au but, ou en tout cas d'y aller beaucoup plus vite.
Vous disiez que vous essayez de répondre aux besoins des clients, mais est-ce qu'il y a des domaines qui sont plus aptes à bénéficier de votre approche, qui sont vraiment le plus pertinent de par leur façon de faire ou de générer des données ou de générer le nécessaire pour que votre approche soit optimale?
Je dirais que nous, on a des compétences dans des domaines particuliers, mais jusqu'à présent, on a quand même travaillé dans des domaines assez différents. Et je dirais que c'est vraiment une IA générale, donc elle s'applique à tous les domaines.
Et par exemple, vous dites dans des domaines particuliers, mis à part l'automobile, quel autre type d'industrie?
Ben, notre forte, c'est la logistique de manière générale, mais on a aussi fait des projets en computer vision. Notamment, on a fait un projet où une approche qui était basée sur le deep learning n'a pas réussi. Entre autres parce que les données n'étaient pas de bonne qualité et parce qu'on était obligé d'utiliser des petits ordinateurs, on n'avait pas accès au cloud. Donc à ce moment-là, notre façon de faire, qui est nettement moins gourmande, pouvait se satisfaire d'une Jetson Nano, c'est un petit ordinateur, on n'avait pas besoin d'accéder au cloud. Et en plus, même quand il n'y avait pas de données, parce que c'était basé sur des caméras et de temps en temps les caméras s'éteignaient pour des raisons de sécurité, donc quand la caméra s'éteint, ben, il n'y a plus de données, et on était capable, avec le savoir et la modélisation de ce savoir, de se passer momentanément des données. Chose qui est évidemment impossible en ML. S'il n'y a pas de données en ML, on ne sait pas aller très loin.
Et quand vous regardez devant vous, à quoi ressemble l'avenir dans le développement de votre approche?
Mais de plus en plus, il y a des acteurs, notamment importants, qui s'y engouffrent. Donc, c'est vraiment un sujet qui commence de plus en plus à être d'actualité. Ce n'est pas encore à la mode, mais j'ai aucun doute que d'ici les prochaines années, on va en parler de plus en plus, notamment pour des questions écologiques, mais aussi pour des questions de résultats.
Évidemment, là, vous avez attiré l'attention de bien des gens. S'il y a des auditeurs qui sont intéressés par Funartech, où ils vont? Comment ils rentrent en contact avec l'entreprise pour avoir plus de détails?
Ben, la façon la plus simple, c'est sans doute de passer par LinkedIn, par exemple. Donc, ils peuvent soit tomber sur la page LinkedIn de la compagnie, soit sur ma page. C'est relativement facile à trouver. Ils peuvent toujours m'écrire aussi à Nicolai, donc c'est Nikolaj comme Jean, @funartech, funartech.com. On est assez facile à trouver. Donc, on se fera un plaisir de répondre aux demandes et aux questions.
Ben écoutez, merci énormément d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Je trouve ça fascinant, votre approche. Nicolai Van Arnhem, je rappelle, vous êtes le PDG de Funartech. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
Ben, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir.
Au revoir.
Au revoir.